VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Morgane Guiriec et Bagassi Koura.
Bonsoir à tous, Bagassi Koura et Morgane Guiriec au micro. Édition du vendredi 3 avril 2015 à la une ce soir.
Explosion dans une maison de Bamako au Mali, au moins un mort.
L'intensité de la déflagration a détruit une partie de la résidence et provoqué d'importants dégâts matériels sur les maisons voisines.
Le président somalien Hassan Cheikh Mohamoud a appelé au renforcement de la coopération sécuritaire entre le Kenya et son pays au lendemain de l'attaque de Garissa qui a fait 147 morts dans l'est du Kenya.
En République centrafricaine, 50 prisons fermes requis contre le ministre du Tourisme, Romaric Vomitsiad, accusé de viol sur mineurs.
Accord cadre sur le nucléaire iranien laisse de joie à Téhéran. Tandis qu'en Israël, le premier ministre israélien est furieux. Il réclame que la reconnaissance de son pays par l'Iran soit compromise dans l'accord final.
Dans quelques instants, la Minute Éco et les sports. 16e de finale, retour de la Ligue africaine des champions. L'AS Pikin et l'entente de Sétif en lice dès ce soir.
Oui, mais d'abord le journal.
Au Mali, au moins une personne a été tuée ce vendredi dans une explosion survenue dans une maison à Bamako. La police a affirmé à l'AFP avoir ouvert une enquête, estimant d'ores et déjà que l'explosion est d'origine criminelle, car plusieurs des donateurs se trouvaient à ce domicile privé. Mais d'après notre correspondant sur place, Kassim Traoré, les gendarmes, eux, parlent d'accident.
L'explosion en question a eu lieu aux environs de 8 heures du matin. C'est vendredi 3 avril 2015 dans la périphérie de Bamako. La forte explosion a causé la mort du jeune Amadou Togo, âgé de 22 ans. Gardien des lieux, il y a eu 4 blessés. L'intensité de la déflagration a détruit une partie de la résidence et provoqué d'importants dégâts matériels sur les maisons voisines. Selon les premières enquêtes de la gendarmerie de Kalabankoro qui était sur place, c'est un accident. Par contre, l'unité antiterroriste privilégier une piste terroriste. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le président somalien Hassan Cheikh Mohamoud a appelé au renforcement de la coopération sécuritaire entre le Kenya et son pays au lendemain de l'attaque des islamistes Shabab qui a fait 147 morts dans une université kenyane. Jean-Roger Bion.
Pour le président Hassan Cheikh Mohamoud, ce massacre montre le besoin de renforcer la coopération antiterroriste entre les deux pays dans le but d'éliminer cette menace de la région. Les Chebabs, très affaiblis militairement en Somalie, ont multiplié ces dernières années les attaques de type guérilla dans leur pays, mais ils ont aussi mené de spectaculaires attentats dans d'autres pays de la région qui sont comme le Kenya engagés militairement en Somalie pour les combattre au sein de la force de l'Union africaine, l'AMISOM. En septembre 2013, les islamistes avaient notamment revendiqué l'attaque du centre commercial Westgate à Nairobi, qui avait fait au moins 67 morts, l'est et le nord-est kenyan frontalier de la Somalie, ainsi que la ville de Mombasa, principal port de la région sur l'océan Indien, ont aussi été frappés par des attaques meurtrières revendiquées par le groupe affilié à Al-Qaïda. La présidente de la commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, a de son côté dénoncé ce vendredi une tuerie lâche et félicité le Kenya pour sa contribution remarquable à la mission de l'Union africaine en Somalie et les sacrifices immenses faits pour stabiliser ce pays. L'Union européenne a pour sa part promis vendredi son soutien au Kenya dans la lutte contre le terrorisme.
Lutte contre l'impunité en République centrafricaine. Le procureur de la République requiert 5 ans de prison ferme à l'encontre du ministre du Tourisme, Romaric Vomitsiadé, accusé de viol sur une mineure de 16 ans lors d'une mission de consultation en janvier dernier à Yaloké, dans l'ouest de la RCA. Son immunité a été levée par la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza. Le verdict est attendu pour mercredi. On écoute le procureur de la République, Ghislain Grissenguet.
Le procès Romaric Vomitsiadé, qui a été un procès tant entendu par le peuple centrafricain, a finalement eu lieu le mercredi passé. Et ce procès l'affaire a été débattue et mise en délibéré, qui sera vidée le mercredi prochain, c'est-à-dire d'ici 4-5 jours.
La peine de 5 ans d'emprisonnement ferme requise par le parquet est-elle à la hauteur des faits qui lui sont reprochés?
Bon, vous savez, le prévenu Vomitsiadé Romaric a été poursuivi pour plusieurs faits. Il y a eu 3 faits que le parquet a retenus à son encontre. Et vous voyez, donc, la peine requise par le parquet qui est de 5 ans d'emprisonnement sa cadre a eu égard à tous les faits que nous lui reprochions. Et maintenant que nous avons requis, nous attendions ce que le tribunal puisse rendre sa décision pour permettre au peuple centrafricain d'être situé par rapport à ce procès qui constitue une grande première. Parce que ce procès, c'est le déclic au niveau de la justice et aussi de la lutte contre l'impunité que prône le gouvernement depuis ces derniers temps.
Ghislain Grésingué, procureur de la République en RCA, joint par Félix Yepassi Zembrou.
En Côte d'Ivoire, la justice ivoirienne annule la suspension de Pascal Afinguessin, président du Front populaire ivoirien. Cette sanction avait été prononcée par une faction rivale au sein de ce parti. La suspension avait décidé alors que Pascal Afinguessin comparaissait aux côtés de l'ex-première dame Simone Gbagbo pour atteinte à la sécurité de l'État commise durant la crise post-électorale de 2010-2011.
Condamnation dans l'affaire des sodas périmés au Burkina Faso. D'après l'AFP, les patrons de la compagnie d'import-export qui vendait ces boissons écopent d'un an de prison ferme pour tromperie aggravée du consommateur. Les deux frères et l'entreprise devront payer chacun 10 millions de francs CFA d'amende.
Au Libéria, une conférence constitutionnelle de 4 jours dans la ville de Gbaranga, hier donc jeudi, a débouché sur une recommandation attribuée au pays, le statut de pays chrétien. Nathalie Barge.
Cette recommandation de faire du Libéria une nation chrétienne n'a pas été reçue favorablement par les groupes musulmans dirigés par l'Organisation musulmane du Libéria, qui ont fait pression sans succès pour que le pays demeure une nation laïque, au motif que l'amendement proposé est discriminatoire, a précisé la présidente de la commission de révision de la Constitution, Gloria Moussou-Scott. La commission chargée d'examiner la constitution du pays, qui remonte à 1986, avait été sollicitée pour d'éventuelles modifications, y compris la durée du mandat du président, du vice-président, des législateurs et des juges, ainsi que des directeurs des 15 subdivisions politiques du pays. Les recommandations de la conférence seront soumises à la présidente Ellen Johnson Sirleaf, qui doit ensuite les transmettre à l'Assemblée nationale pour approbation avant d'être soumise à un référendum dans un an ou deux.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, c'est avec joie que les Iraniens ont accueilli l'accord cadre sur le nucléaire avec les puissances mondiales. Cet accord annoncé hier permettra de lever les sanctions internationales en échange de l'arrêt du programme nucléaire de Téhéran.
Oui, et quant à Israël, il a vivement réagi aujourd'hui après l'annonce hier donc d'une entente préliminaire entre Téhéran et la grande puissance. Le premier ministre israélien a réclamé que la reconnaissance de son pays par Téhéran soit compromise dans l'accord final. Nicolas Pinault.
Israël exige que tout accord final avec l'Iran inclue une reconnaissance iranienne claire et sans ambiguïté du droit à l'existence d'Israël, a dit le Premier ministre cité dans un communiqué. M. Netanyahou a par ailleurs affirmé la nécessité d'accroître la pression sur l'Iran pour obtenir un meilleur compromis. Les responsables israéliens affirment depuis des mois que l'accord cadre actuel n'est pas le bon. Certains disent que la seule alternative à cet accord, c'est la guerre, a dit M. Netanyahou. Ce n'est pas vrai. Il y a une troisième possibilité, rester ferme, accroître la pression sur l'Iran jusqu'à ce qu'on parvienne à un bon accord. Dans l'autre camp, à Téhéran, le président iranien Hassan Rouhani a lui estimé qu'un accord nucléaire global pourrait ouvrir une nouvelle page dans la relation entre l'Iran et la communauté internationale. Lors de ce discours télévisé, M. Rouhani a déclaré que son pays aspirait à mettre fin à des tensions et des hostilités avec certains pays. Le président iranien a aussi défendu une nouvelle fois son équipe de négociateurs, critiquée par certains responsables conservateurs pour avoir fait trop de concessions aux Occidentaux.
Et des combattants d'Al-Qaïda et leurs alliés mènent une bataille pour le contrôle de la plus importante base militaire du régime syrien dans la province d'Idleb, au nord-ouest, près d'une semaine après la prise de la ville éponyme, selon une ONG citée et par l'AFP.
Le Pakistan a évacué aujourd'hui près de 200 de ses citoyens du Yémen pendant ce temps. Le premier ministre pakistanais Nawaz Sharif s'est rendu en Turquie pour des entretiens avec les dirigeants du pays sur la crise au Yémen. Le Pakistan n'a pas encore décidé de rejoindre la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite qui a lancé les frappes aériennes pour stopper l'avancée des rebelles houthis chiites au Yémen. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Africa. Sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco. Et ce soir, c'est avec Jean-Roger Billon.
L'Algérie entend durcir la lutte contre la corruption, le commerce informel et les transferts illégaux de devises afin de contrebalancer la raréfaction de ses ressources extérieures induite par la chute des prix des hydrocarbures. Comme d'autres pays pétroliers, l'Algérie est contrainte de réviser son budget alors que l'or noir et le gaz lui assurent plus de 95% de ses recettes à l'exportation. En République démocratique du Congo, un nouveau centre de négoce de minerais à Amissi, dans le territoire de Lubutu. Il a été initié par la Fédération des coopératives minières du Maniema, la FECOMA, dans le but d'aider la province à bien canaliser toute la production de la région vers un circuit légal. Le président de la coordination de la FECOMA, David Israël Kikuni, estime que la mesure va profiter à la province.
L'idée, c'est pour arrêter l'hémorragie de la fraude qui s'est passée dans ces contrées. Parce que ça fait longtemps les produits miniers qui quittaient à Lubutu, la France ne produisait rien. Ça allait ailleurs comme ça payer des taxes. Le Maniema maintenant va profiter.
David Israël Kikuni au micro de nos confrères de Radio Okapi. Et l'économie des États-Unis a créé beaucoup moins d'emplois qu'attendu en mars, tandis que le taux de chômage est resté stable. Selon les chiffres publiés ce vendredi par le ministère du Travail, l'activité économique n'a généré que 126 000 emplois en mars, soit une chute de 52% par rapport à février, dont le chiffre a en outre été révisé à la baisse. C'est le plus faible niveau de nouvelles embauches depuis décembre 2013, a précisé un statisticien du ministère.
Voilà pour la Minute Éco, c'était avec Jean-Roger Billon.
Allez, on enchaîne sur les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
La Ligue africaine des champions reprend ses droits ce week-end.
Les 16e de finale retour, dès ce soir, mission impossible pour l'AS Pikine. Le club de la banlieue dakaroise doit inscrire au moins 4 buts après la lourde défaite à l'aller face à l'USM Alger. L'entente de Sétif, tenante du titre, a peu de soucis à se faire après avoir ramené un nul de Banjoul, un partout. Samedi, le stade malien Bamako devra battre le Manga Sport du Gabon au moins 2-0. Émission périlleuse au Caire pour l'APR après sa défaite à domicile à Kigali 2-0 contre Al Ahly. Et dimanche, battu à Pretoria par les Mamelodi Sundowns 1-0, le tout-puissant Mazembe de Patrice Carteron jouera très gros devant son public. Le suspense sera en revanche total au Ghana entre l'Asante Kotoko et le MCL Oulma après le match nul et vierge du match aller.
La Coupe de la Confédération à présent ?
Dès ce soir, les 16e de finale retour. Au Roya, le club guinéen tentera de conserver son but d'avance face à l'Asso Chlef et le club congolais du MK Étanchéité devra battre Al Ahly Shendi, le club soudanais.
On parle gros sous à présent en boxe.
L'Américain Floyd Mayweather va gagner en 2015 plus d'argent en une année qu'aucun autre sportif dans l'histoire grâce à son combat très attendu et très lucratif contre le Philippin Manny Pacquiao. C'est ce qu'a calculé le magazine Forbes. Mayweather, surnommé entre autres Money, devra recevoir un minimum de 150 millions de dollars pour ce combat programmé le 2 mai à Las Vegas. Je vous rappelle que Mayweather est champion WBA et WBC des Walter. Il est invaincu en 47 combats, tandis que Pacquiao a décroché un titre mondial dans 8 catégories différentes. Il affiche à son palmarès 57 victoires, 5 défaites et 2 nuls.
Et pour terminer, la NBA, championnat de basketball nord-américain.
Pour la 4e fois cette saison, LeBron James a retrouvé ses anciens coéquipiers de Miami qui n'ont pas encore leur billet pour les playoffs. Il ne leur a fait aucun cadeau et s'est imposé avec son équipe de Cleveland, 114 à 88. James Harden s'est contenté de 24 points lors de la victoire de Houston à Dallas, 108-101. Enfin, Golden State a battu Phoenix, 107 à 106 à la dernière seconde.
Les sports avec Nicolas Pineau. Merci.
Voilà, c'était donc les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas Pineau donc qui va profiter de ses vacances, quoi, on dit estival.
Ah bon, il part en vacances, Nicolas Pineau?
Ben, c'est un long week-end ici, hein, donc j'imagine que c'est un grand chrétien, donc il va en profiter. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Allez, on est toujours ensemble, hein, Bagassi Kouré, Morgane Guiriek, en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Morgane, le Kenya.
Retour sur l'attaque de l'université de Garissa où 147 personnes sont mortes. Nairobi a réitéré sa détermination à combattre les Chababs qui ont revendiqué cette attaque malgré la mort de plusieurs de leurs chefs. Les djihadistes sont donc toujours opérationnels et menaçants même au-delà des frontières somaliennes. Pour une analyse, Nicolas Pineau a joint Roland Marchal, chercheur au CNRS.
Le fait que Chabab opère de façon croissante sur le territoire kenyan n'est pas une surprise, au moins pour trois raisons. La première, c'est que Chabab, en fait, a redoublé d'efforts dans la province du Jubaland, donc qui est frontalière avec le Kenya, et évidemment a une capacité de frappe de l'autre côté de la frontière qui est beaucoup plus forte. La deuxième, c'est que Chabab veut montrer qu'il existe, que l'organisation n'est pas aussi affaiblie qu'on le dit et on le répète, malgré le fait que des frappes aient tué des responsables importants. Dans le même temps, la présence de militaires kenyans à Kismayo est un problème pour Chabab. Puis le troisième aspect, c'est quand même que Chabab, depuis quelques années, essaye de développer l'idée qu'il essaye de créer un mouvement djihadiste au Kenya.
Aujourd'hui, comment se finance Al-Shabaab ?
On peut toujours commencer à évoquer les dons faits par Al-Qaïda dans la péninsule arabique, puisque c'est la filiale d'Al-Qaïda qui est la plus proche de Shabaab. Fondamentalement, les deux sources de financement restent les mêmes que depuis le début, c'est-à-dire d'un côté la diaspora, et de l'autre également, si vous voulez, une espèce d'économie de la protection avec les milieux d'affaires somaliens, essentiellement à l'intérieur de la Somalie, c'est-à-dire du Somaliland à Kismayo, où les grands opérateurs, les grands et moins grands opérateurs économiques payent pour simplement être qu'on les laisse faire leurs affaires.
Est-ce que, comme en Afghanistan, la solution militaire en Somalie n'a pas montré ses limites et on oublie souvent le volet réconciliation ?
Un volet militaire dans les circonstances actuelles, il doit évidemment exister. Ce qui me semble tout à fait, par contre, frappant, c'est qu'à plusieurs moments, il y a eu des possibilités. Il y a eu des moments où on aurait peut-être dû jouer cette carte de engagement, comme on dit en bon anglais, et qu'on n'a pas voulu la jouer parce qu'on était tellement sûr de gagner. Je pense aussi que même si les États occidentaux, l'Éthiopie et le Kenya sont absolument en faveur d'une réduction militaire de Chabab, ils oublient complètement de s'interroger sur la dimension sociale de ce qui se passe, et notamment le fait que Chabab continue à avoir des soutiens significatifs, même si minoritaires, dans la société somalienne et au-delà.
Roland Marchal, joint à Paris.
La lutte contre le chômage au Togo, là-bas, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi veut rester créatif. Il vient de lancer le programme Service à la personne. Le programme concerne donc les domestiques, les nourrices et les auxiliaires de vie de Lomé. Kaïl Osson nous en dit plus.
La ville de Lomé compte 30 000 travailleurs domestiques, dont 70% travaillent de façon informelle. Selon une étude réalisée sur le secteur de service à la personne, 55% des personnes engagées n'offrent que des services ménagers et 31% des besoins sont insatisfaits. C'est dans une perspective d'organiser le secteur et de répondre à certains besoins que l'Agence nationale pour l'emploi ANPE veut mettre en œuvre le programme de service à la personne. Edmond Amoussou, directeur général de l'ANPE.
Il n'y a pas que les emplois domestiques. Il n'y avait pas le métier d'auxiliaire de vie. Ceux qui peuvent assister les personnes âgées, les personnes en dépendance. Mais il est important de préciser aussi que les gens viennent dans les ménages sans être formés. Ce programme va permettre à ceux qui sont déjà en emploi de pouvoir les recycler, relever leurs compétences.
Selon la NPE, le secteur du service à la personne offre des opportunités qui vont au-delà de 100 000 emplois. Mais pour la phase pilote du programme, 5 000 emplois seront créés sur les trois prochaines années. Jean-Paul Barbier, conseiller technique principal du programme d'appui à la promotion de l'emploi, et à la réduction de la pauvreté du BIT.
En mettant en place les services à la personne tels qu'on est en train de les développer, ce qu'on escompte, c'est des personnels auxquels les employeurs donneront de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail, une meilleure protection sociale. Un dispositif de ce genre va contribuer à promouvoir un plus grand nombre d'emplois décents.
Au Togo, environ 10% des travailleurs du secteur sont payés à moins de 10 000 francs CFA et 26% entre 10 000 et 15 000 francs CFA, alors que le SMIC est fixé à 35 000 francs. Sur cet aspect, les réflexions sont en cours, nous dit le ministre togolais du Travail, professeur John Aglo.
On paie en espèces 35 000 au SMIC, mais lorsque vous travaillez quelque part, vous avez une partie du salaire en espèces et l'autre partie en nature. Par exemple, le logement, l'alimentation et puis les autres soins. Tout ça sont normalement à chiffrer. Donc la réflexion consistera à trouver les équivalences.
À travers le programme de service à la personne, le Togo veut non seulement adapter le concept d'emploi à ses réalités, mais aussi réussir la transmutation des pratiques qui lui sont propres vers les normes standardisées. Kyle Hassan, Lomé, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Togo, sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
Le président Barack Obama a salué l'accord cadre sur le nucléaire iranien et il a lancé une campagne pour le faire accepter par le public américain et le Congrès dominé par les républicains. Et ces derniers, pour la plupart, sont sceptiques, voire contre toute négociation avec l'Iran. Idrissa Seydoudia fait le point.
En annonçant l'accord préliminaire de Lausanne, M. Obama a souligné à plusieurs reprises que l'accord avec l'Iran sera fondé sur la vérification, pas la confiance, et que Téhéran fera face à plus d'inspections que n'importe quel autre pays dans le monde.
If Iran cheats, the world will know it.
Si l'Iran triche, le monde le saura.
We will inspect it.
Si nous voyons quelque chose de suspicieux, nous l'inspecterons.
Selon de récents sondages, les Américains sont ouverts à un règlement négocié sur le nucléaire iranien. Mais on ne peut pas dire la même chose pour tous les parlementaires américains. Le mois dernier, par exemple, 47 sénateurs républicains ont envoyé une lettre aux dirigeants iraniens promettant un veto de facto de tout accord conclu. L'auteur de cette missive, le sénateur Tom Cotton, a rejeté hier l'accord, le qualifiant de liste de dangereuses concessions américaines qui conduiront l'Iran à la bombe atomique. De son côté, le président de la Chambre des représentants, John Boehner, a demandé que l'on permette au Congrès d'examiner l'accord dans tous ses détails avant la levée de quelconques sanctions. Mais le Congrès peut-il bloquer ou faire échouer cet accord, même si les adversaires républicains du président y disposent de la majorité absolue? Pas nécessairement, répond Jim Malone, principal analyste politique de La Voix de l'Amérique.
Well, the easy answer to that is it's not entirely clear what they may do, what they may try to do.
Jim rappelle que cet accord n'est pas un traité entre les États-Unis et l'Iran et que doit ratifier la Chambre haute. Les présidents, explique-t-il, ont l'habitude de choisir l'option accord pour éviter d'impliquer les parlementaires. Mais il serait plus sage, dit Jim, de le faire parce qu'il y a des démocrates qui sont sceptiques aussi. Le président ne peut lever que les sanctions de l'exécutif, mais le Congrès pourrait en adopter de nouvelles contre l'Iran. Le président pourrait user de son veto, mais étant donné la position de certains démocrates, il risquerait lui-même de se heurter à la majorité des deux tiers requises par la Constitution pour passer outre. Il ne faut pas non plus oublier que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a de nombreux amis et alliés au Congrès des États-Unis, a averti qu'il fera tout pour modifier un accord cadre qui, en l'état actuel, menace la survie, dit-il, de l'État d'Israël.
Voilà, des centaines de millions de chrétiens dans le monde sont sur le chemin de croix en ce vendredi saint, deux jours seulement avant le dimanche de Pâques. Pâques commémore la scène, la passion et la résurrection du Christ. Et cette année, sa date a été fixée le 5 avril et le 12 avril pour les églises orthodoxes.
Et certaines églises bagassient la pratiquent en concordance avec la Pâque juive, commémorant la fuite d'Égypte. Nathalie Barge a joint Abidjan, le journaliste et biographe de cardinaux ivoiriens, Léon Francis Lebris, avant le départ du chemin de croix devant la cathédrale Saint-Paul.
La Pâque chrétienne, pour nous, c'est l'aboutissement de notre foi. C'est même, disons, le pilier de la foi, parce que nous disons, nous les chrétiens catholiques en particulier, que si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Notre foi, c'est justement le fait de croire que Dieu le Créateur, miséricordieux, a voulu que son Fils vienne sur la terre pour expier nos fautes et par sa mort, eh bien, nous sauve de toutes ces fautes. Que l'homme ancien s'en aille pour que vienne l'homme nouveau. Donc pour nous, c'est très important du point de vue de notre foi et ça l'est encore plus du point de vue, j'allais dire, de la célébration de cela, c'est-à-dire tout le mémorial qu'on fait de la vie de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il arrive au commencement du plan de rédemption. Alors voilà comment ça se passe chez nous tout simplement. C'est un acte de foi très important pour nous-mêmes et nous accompagnons le Christ justement dans ce cheminement qui est la dernière étape avant sa mort et sa résurrection.
La suite du chemin de croix, on a samedi, on a le dimanche de Pâques. Quelles vont être les cérémonies justement après celle-ci?
Alors parfois après le chemin de croix d'aujourd'hui, on célèbre la Sainte Messe. Parfois dans certains endroits on ne célèbre pas la Sainte Messe. On estime que d'avoir rappelé les différentes stations que le Christ a connues dans son parcours, ça suffit. Mais quoi qu'il en soit, demain samedi, c'est un peu l'apothéose. Il y aura surtout la nuit de Pâques. La nuit de Pâques, c'est très, très, très important parce qu'après toute cette période de carême, après tout ce mémorial, eh bien, on fête, j'allais dire, la victoire du Christ sur la mort. C'est un moment très joyeux et ça s'exprime justement dans la liturgie qui est prévue à cet effet. Bon, le dimanche de Pâques, c'est un peu dans la suite du samedi. Tout ça, ça fait partie du week-end de Pâques, donc du week-end de la victoire du Christ sur la mort, sur les ténèbres et sa victoire par rapport au plan de salut que Dieu a fait pour les hommes. Donc les églises, en tout cas en Côte d'Ivoire, en Afrique sans doute, mais surtout en Côte d'Ivoire, sont toujours très remplies à ce moment-là.
Est-ce qu'il y a un message spécial de l'archevêque d'Abidjan ce jour du chemin de croix?
Je suis sûr qu'il en aura un. La Côte d'Ivoire a connu des moments difficiles. Il faut que la résurrection de Christ soit notre résurrection sociétale, politique, enfin sur tous les plans. Il faut que nous retrouvions l'amour, il faut que nous retrouvions la fraternité. Donc je suis presque sûr que ce sera basé sur l'amour et sur la nécessité de faire renaître notre pays durablement.
Notre confrère Léon Francis Lebris était joint à Abidjan.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, Island Music, de la bonne musique des îles. Zouk, soca, merengue, reggaeton, reggae. Nous allons aussi continuer avec notre sujet hebdomadaire. Envoyez-nous vos réactions par SMS au 225-58-92-85-40. Encore une fois, 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-31-40. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Allez, le rappel des titres.
Au Mali, au moins une personne a été tuée aujourd'hui dans une explosion survenue dans une maison à Bamako. La police a affirmé à l'AFP avoir ouvert une enquête, estimant d'ores et déjà que l'explosion est d'origine criminelle.
Le président somalien Hassan Cheikh Mohamud a appelé au renforcement de la coopération sécuritaire entre son pays et le Kenya au lendemain de l'attaque de Garissa qui a fait 147 morts.
Lutte contre l'impunité en République centrafricaine. Le procureur de la République requiert 50 prisons ferme à l'encontre du ministre du Tourisme, Romaric Vomi Etiadé, accusé de viol sur une mineure de 16 ans.
Et puis en Côte d'Ivoire, la justice annule la suspension de Pascal Affine-Guessant, président du Front populaire ivoirien. Cette sanction avait été prononcée par une faction rivale au sein de ce parti.
Condamnation dans l'affaire des sodas périmés au Burkina Faso. D'après l'AFP, les patrons de la compagnie écopent d'un an de prison ferme. À la mise en onde ce soir, Lionel Gaïma, présentation Bagessi Koura et Morgan Guiriec.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet, c'est voafrique.com.
Vous
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.